Nous accueillons Perrine maintenant, 39-21. Bonsoir Perrine.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir Perrine. Alors Perrine, vous nous appelez du Canada, où il est quelle heure en fait?
Il est 18h40.
18h40, voilà. Perrine, vous nous aviez appelé il y a quelques mois pour nous raconter votre histoire, une histoire finalement assez proche de celle de Lilou qui nous a appelé en début de semaine, et vous vouliez réagir par rapport à ce que vous avez entendu.
Oui, Olivier, si vous me permettez, juste avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais faire un tout petit préambule parce qu'aujourd'hui, pour nous au Canada, c'est une journée très, très importante et je ne pense pas qu'en Europe et en France, on soit vraiment informés sur la chose. En fait, aujourd'hui, le 30 septembre, au Canada, c'est la toute première journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Et par là, on entend en fait que c'est la vérité sur ce qu'on appelle les pensionnats autochtones, parce qu'il y a des populations indigènes qui ont été assimilées de force au Canada.
Oui.
Donc, ce sont des, surtout des tout jeunes enfants, en fait. On leur a vraiment retiré leur identité, coupé leur natte, retiré leurs vêtements, leurs costumes traditionnels, et on les a convertis de force au catholicisme à l'époque.
Oui.
Et ça a duré jusqu'à une très bonne partie du XXe siècle même. Bref, donc voilà, je voulais juste vous dire que je suis très contente de pouvoir passer à l'antenne aujourd'hui. Pour moi, pour moi, ça a une très forte résonance. Et puis en plus, la vérité et la réconciliation, pour tout le monde, je dirais, on en a tous besoin.
Exactement, on en a tous besoin, évidemment.
Voilà.
Et vivement qu'il y en ait en France des journées comme ça. En France, il en faudrait plusieurs de journées comme
ça. Oui, je pense, oui.
Ouais, parce qu'on a du boulot.
Mais
c'est bien que vous parliez de ça parce que d'abord, oui, je pense qu'on était à peu près tous à l'ignorer. Il s'agit de populations indiennes, en fait.
Oui, c'est ça. Oui. Donc, communément, ce qu'on appelle les Indiens d'Amérique. Donc, c'est vraiment ici, on n'aime pas cette appellation. C'est très colonialiste. On préfère dire alors les Métis, les autochtones et les Premières Nations. Voilà,
oui.
C'est comme ça qu'on les définit.
En gros, ce sont les gens qui occupaient et qui étaient chez eux et qui ont été assimilés, pour ne pas dire dans un premier temps combattus. Par les Blancs et les Européens, essentiellement, aux États-Unis et au Canada.
Exactement.
Est-ce que
et
ça se passe,
encore aujourd'hui.
Ça se passe de la même manière, pardon, non, c'est moi. Est-ce que ça se passe de la même manière aux États-Unis? Est-ce qu'il y a un mouvement de, comme ça, de vérité, de réconciliation?
Excellente question. Je l'ignore. Vraiment, je l'ignore. Je sais qu'au Canada, ça fait vraiment des décennies que les gens se battent pour avoir un jour pareil. Le Canada a institué ça. Pour nous, c'est tout nouveau aussi. C'est au mois de juin cette année que le Parlement canadien, le Parlement fédéral l'a adopté.
Oui.
Ils ont voulu en faire un jour férié, mais en fait, ce n'est pas toutes les provinces qui le reconnaissent comme jour férié. Le Québec fait beaucoup de réticence. Ils le reconnaissent, on va dire, c'est commémoratif. OK, c'est super, ça existe, c'est bien, mais ce n'est pas un jour férié. En Ontario, là où je me trouve, c'est férié, mais pas pour tout le monde, surtout pour les employés au niveau fédéral. Moi, ça me concerne pas parce que je suis allée travailler normalement aujourd'hui, mais ça m'empêche pas de commémorer cette journée.
C'est
donc,
étonnant que
ça
que
varie
le Québec,
d'une province à l'autre.
C'est étonnant que le Québec soit réticent à ça. Généralement, c'est plutôt une province qui est très non.
Pas trop envie de faire de la politique ce soir, quand on vit pas au Québec, les autres provinces et territoires, on sait que le Québec, ils aiment bien avoir leur petit particularisme.
Donc, d'accord.
Voilà. Ouais. Ils aiment bien créer des chicanes, comme ils disent eux-mêmes, des petites guéguerres au niveau politique. Donc voilà, il y a des trucs. Ils n'ont pas obtenu l'indépendance deux fois par le passé. Du coup, maintenant, ils ont une énorme autonomie quand même. Ils ont vraiment la main sur plein de dossiers qui, dans les autres provinces et territoires, relèvent du fédéral. Eux, ils ont la main mise sur leur propre dossier, mais quand même, ils aiment bien.
Le Premier ministre est québécois, non?
Alors, Justin Trudeau, il est né à Montréal, je crois bien. Oui, c'est vrai. D'origine, il est québécois.
Ouais, il me semblait bien.
Mais il est fédéraliste, hein, comme son père. Son D'accord. père, avant, a été aussi premier ministre au niveau fédéral, au niveau canadien. Donc, c'est des gens, même s'ils sont nés à Montréal, il n'est pas... Non, je crois pas. Il n'est pas à fond pour la cause
D'accord.
québécoise.
D'accord. Non, mais je demandais juste,
tout,
il me semblait qu'il était justement québécois. Bon, on referme cette page historico-politico-sociologique et on va parler donc... du témoignage de Lilou qui a eu une résonance pour vous.
Oui, complètement. Quand je l'ai entendu, alors c'était quand lundi, mardi, mon cœur s'est arrêté de battre une seconde. J'arrêtais pas de me dire, oh mon Dieu, comme moi. Et puis bon, après, bien entendu, il y avait des trucs qui étaient... Il y avait un petit peu moins de similitudes sur d'autres aspects, mais... d'ailleurs, Florian a eu la gentillesse de me mettre en relation avec Lilou. Je lui parle en privé, donc je vais pas étaler ça ici, mais j'ai une super communication avec elle et je l'embrasse si elle écoute et voilà, je la soutiens de tout cœur.
Oui, parce que ça n'est pas facile ce qu'elle traverse en fait. Vous avez traversé la même chose,
pas du
hein
tout.
Vous avez
pas
traversé
du tout.
La même
j'ai
chose.
J'ai traversé la même chose, mais. Fort heureusement, je me trouve dans une meilleure situation aujourd'hui et je voulais en fait utiliser ça pour, je sais pas trop, pour donner un peu d'inspiration, un peu de peps aux femmes mariées qui se retrouvent dans des situations pareilles qui sont parfois un peu inextricables. Les situations pareilles, j'entends par là l'adultère, soit l'adultère réel, physique, ou soit émotionnel. Et... Alors, nous, ça va mieux. Moi, ça va mieux. Ça fait 6 semaines, je crois, à peu près 6 semaines que j'ai parlé d'une relation physique que j'ai eue avec un autre homme. J'en ai parlé à mon mari. Mmh. C'est certain que c'était pas facile du tout au début. Mais je crois être dans une meilleure situation 6 semaines plus tard. Donc, c'est pour ça, Olivier, que je me permets de vous appeler pour essayer de passer un petit message d'espoir, un message positif.
Oui, complètement, vous avez raison.
J'aimerais, au lieu vraiment de m'étaler sur ma propre vie, j'aimerais utiliser ça justement pour donner peut-être des tuyaux, des astuces à d'autres femmes. Alors, je prétends pas avoir trouvé la solution miracle, le remède miracle, mais je voudrais utiliser quelques éléments, je voudrais vous donner quelques éléments que moi j'ai utilisés et qui m'ont beaucoup aidée.
En tout cas, Perrine, oui. on a eu quand même... comme similitude principale dans le témoignage de Lilou et dans le vôtre, cette sensation de faire partie des meubles et donc
complètement
de finalement se précipiter corps et âme dans une aventure parce que de l'autre côté c'était le néant.
Exactement. De toute façon, c'est clair que une personne qui va voir ailleurs, c'est quelqu'un qui est pas qui n'est pas satisfaite, qui n'est pas heureuse dans sa relation officielle. Donc, c'est pas non plus un geste. En tout cas, pour les femmes, j'entends, c'est pas vraiment un geste qu'on a facilement. C'est pas
alors,
juste parce
dire...
qu'on rencontre quelqu'un qui n'est pas trop mal et voilà.
Mais je vais vous dire, j'ai eu une conversation assez intéressante, notamment avec Raymond, qu'on saluait au début de l'émission, qui est une femme qui a perdu son mari il y a 18 ans. Et qui me disait que elle n'avait parce que Lilou parlait de l'aspect sexuel extrêmement intéressant, extrêmement central hein, dans le problème dont elle parlait, c'est-à-dire l'envie d'être désirée, de se trouver belle. Et lorsque Raymond m'a dit que finalement en 18 ans elle n'avait jamais eu elle d'envie. Je me suis dit, finalement, ce qui provoque cette situation, c'est bien ça, c'est de vivre avec un homme qui, d'un seul coup, ou une femme, hein, parce que ça peut être l'inverse, mais c'est que l'autre ne manifeste plus le moindre intérêt et attirance pour son compagnon ou sa compagne.
Oui, en fait, je pense que l'intérêt et l'attirance, parfois, peuvent toujours être là. Mais c'est juste qu'on ne le communique plus, en tout cas on ne le communique plus aussi efficacement qu'on le faisait au début de la relation. Donc du coup, il y a une petite situation un peu plan-plan qui s'installe. Et moi, c'est pas fini, mais je me sers de cette expérience pour me psychanalyser toute seule. C'est un peu gros, mais c'est vraiment ce que j'essaye de faire. Je m'éduque avec plein de ressources, des choses que je trouve sur Internet ou des bouquins, de sources fiables en général. Mais moi, j'ai compris plein de choses sur moi. Vraiment, ça m'a permis d'ouvrir les yeux. C'est vrai qu'à la base, c'est une grosse erreur de jugement que j'aurais jamais dû commettre, mais bon.
Alors,
tous des erreurs.
Pardonnez-moi Perrine, je vais vous interrompre parce que Florian vient de me dire que beaucoup de personnes n'avaient pas entendu le témoignage de Lilou et ni le vôtre. Donc on va brièvement résumer pour qu'ils sachent de quoi on parlait. En fait, Lilou nous a appelé cette semaine pour nous dire que elle vivait une situation d'adultère depuis un an, qu'elle avait un mariage depuis, je crois, 17 ans. Voilà,
oui,
17 ans, un mariage heureux, un mariage équilibré avec un homme qu'elle aimait, son mari, qu'elle aimait follement, mais que petit à petit, les rapports sexuels s'étaient éteints et qu'il n'y en avait plus du tout depuis plus d'un an. Et elle a rencontré donc un homme un jour qu'elle faisait ses courses et de cette rencontre est née une passion hein, entre elle et cet homme. Et elle nous a expliqué, parce qu'on a parlé longuement, qu'elle était amoureuse aujourd'hui de cet homme, mais qu'elle était encore amoureuse de son mari, et qu'elle était partagée, mais qu'elle vivait donc cette situation d'adultère dont elle ne voulait absolument pas se séparer. Elle est incapable aujourd'hui de faire une croix sur ces deux relations, en fait, que ce soit avec son mari et sa famille, et cet homme qui est amoureux visiblement d'elle aussi. Et vous nous avez appelé ce soir parce que on avait eu ce même chemin hein, que vous avez vécu avec une relation aussi adultère cet été, mais que vous avez fini par révéler à votre mari avec un mari qui avait vraiment extrêmement bien réagi et que voilà, vous allez nous en donner des nouvelles ce soir, je suppose.
Voilà, moi c'est un ex que j'avais retrouvé, un ex d'il y a 15 ans, et je suis tombée un petit peu dans le panneau de la nostalgie et voilà, des émotions de jeunesse retrouvées. Et faut dire que aussi mon ex était très 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 doué, très talentueux pour, il a trouvé les mots pour me faire revenir en fait. Donc, mais ça a pas fonctionné bien longtemps, donc. Écoutez, moi en fait le suivi que je pourrais vous donner là-dessus, puisque c'est vraiment un suivi ici, c'est que la méthode que j'ai utilisée, enfin aujourd'hui j'appelle ça une méthode, mais sur le fait c'est arrivé comme ça parce que tout simplement j'ai pété les plombs un jour, enfin pété les plombs, mes nerfs ont lâché, j'arrivais plus à supporter en fait cette espèce de double vie, et pourtant comparé à Lilou, moi c'est pas une relation aussi suivie, aussi durable. Moi j'ai juste vu cette personne deux fois sur le plan intime, mais je lui ai pas avant ça, on s'est échangé des messages pendant pratiquement un an, donc c'était plus une relation virtuelle qui s'est concrétisée un tout petit peu, mais c'était vraiment virtuel. Et aussi la différence par rapport à Lilou, c'est que moi j'étais vraiment dans le fantasme, j'étais dans un truc qui n'existait pas. C'était vraiment, j'avais la tête dans les nuages, et même quand j'ai rencontré la personne au début, j'ai eu même un petit choc, mais après, bizarrement, mes fantasmes ont quand même pris le pas, et j'ai fini par le voir avec les yeux du fantasme, les yeux de l'amour, et au final, j'arrivais même à l'accepter avec ses énormes défauts. C'est ça le pire.
Bon, mais vous avez admis, à la fin, vous êtes trompée, en fait.
Oui, complètement. Et je sais que ce n'est pas quelqu'un de viable, de toute façon. Donc, et tout ce que je me projetais, c'était vraiment que du fantasme. C'est-à-dire que si au final j'avais pris la décision de quitter mon mari pour aller avec lui, je sais pertinemment qu'il aurait été incapable de m'offrir le genre de vie auquel je suis habituée.
Alors, alors justement, vous m'avez dit donc avoir tiré certains enseignements. Quels sont-ils ? Est-ce que ce sont des enseignements tirés de cette aventure, mais aussi des enseignements tirés de vos révélations à votre mari, de cette relation extra-conjugale. Qu'en est-il ?
Les deux. Alors, tout simplement, l'enseignement tiré de cette expérience, de cette aventure, c'est d'abord, bah, si ça n'a pas marché avec un ex il y a 15 ans, il n'y a aucune raison de retourner vers cette personne. Et la deuxième chose, c'est que quand une personne vous dit « oui, j'ai changé, t'inquiète pas, c'est plus comme avant », je pense qu'il ne faut pas se focaliser sur les paroles de la personne, mais il faut vraiment, entre guillemets, le mettre à l'épreuve, voir un petit peu ce qu'il fait et juger par les actions et pas par les propos. Ça, c'est tout simple, mais c'était aussi ça mon erreur de jugement, c'est que je suis tombée vraiment dans le panneau. Par rapport au fait d'en parler à mon mari, pour moi, ce qui a fonctionné, c'est ben, justement de crever l'abcès, de pouvoir communiquer avec mon mari. Et par contre, j'ai pas. Enfin, je sais que c'est pas évident dans toutes les relations, dans tous les couples. Je sais très très bien. J'ai eu un gros coup de chance là-dessus que mon mari m'ait bien pris, parce que c'est quelqu'un qui peut avoir des accès de colère. Enfin, comme tout le monde d'ailleurs. Mais j'avais vraiment peur que ça tourne mal. Mais gros coup de chance. Et en plus, j'avais même pas protégé mes arrières. J'étais chez moi. Enfin, si vraiment il était violent, ça aurait pu mal finir, tout simplement. Et ça a pas été le cas, pas du tout. On s'en est même pas rapproché. Il n'y a vraiment aucun ni coup qui a échappé, ni propos violents. Donc, ça a été vraiment, ça a été géré. Je pense que c'est ça, crever l'abcès, dépendamment de la situation, si ces femmes-là savent qu'elles ont un conjoint qui est violent, qui pourrait vraiment très, très mal réagir, bah, crever l'abcès, mais prévoir ses arrières et un environnement sécure. Un endroit où elles peuvent s'échapper, d'où elles peuvent s'échapper physiquement, par exemple, ou prévoir de passer quelques jours ailleurs ou avec de la famille pour laisser un peu la tension retomber, pour pouvoir ensuite communiquer. Voilà, une fois que les émotions primaires sont passées, je pense que c'est très important. Et aussi, après coup, une fois qu'on a crevé l'abcès, bah, c'est de mettre en place une communication sans faille avec son conjoint. Et surtout de pas tout lui dire, ne pas tout lui dire tout ce qui s'est passé avec l'autre personne, parce que faut pas oublier que l'amant, il a aussi été là pour nous aider justement à sortir de notre routine, de notre vie maritale, et bah, ça a été quelqu'un avec qui on a projeté ou peut-être même qu'on a réalisé certains fantasmes. Donc faut pas venir raconter tout ça à son mari, surtout pas blesser son ego d'homme, parce que je pense que ça c'est voilà, ça peut vraiment tourner voilà, négativement pour nous. Et aussi, réaliser qu'un jour, ben, en fait, l'amant, tout est forcément mieux avec lui parce que ben, on partage rien avec lui. On partage pas de facture, pas de crédit, pas d'enfant, pas de responsabilité, pas de routine. Tout est forcément meilleur et forcément, c'est beaucoup plus excitant. Jusqu'au jour où on réalise que bah, c'est un humain comme les autres, en fait. Il commet des erreurs comme les autres, il a des failles comme les autres. Donc, au final, je pense que si on utilise cet amant pour sortir de notre vie maritale bah, et qu'on s'installe avec cet amant, finalement, et qu'il devient le prochain conjoint, bah, c'est un cycle, ça va redémarrer, ça va faire les mêmes, comment on dit ça déjà, les mêmes causes produisent les mêmes conséquences.
Les mêmes effets. Les mêmes effets produisent.
Les mêmes effets. Oui. Voilà. Donc, on va se retrouver dans un cycle sans fin, jusqu'à ce qu'on ait compris vraiment comment on fonctionne et qu'est-ce qu'on attend de l'autre.
Et j'aimerais bien, Perrine, parce qu'il nous reste une minute, que vous me donniez votre ressenti sur que doit faire Lilou. Parce que je lui ai dit, moi, de mon point de vue, à moi, mais qu'est-ce que vous lui conseilleriez ?
Alors, Lilou, on en discute pas mal, mais moi, je lui ai recommandé de réfléchir, bien entendu, à tout ça, mais essayer de prendre une décision radicale. D'un côté comme de l'autre. Mmh. Mais je ne crois pas en fait que son amant ait des sentiments pour elle. Je me suis peut-être trompée là-dessus, je n'ai pas toutes les infos, mais je ne crois pas que ce soit réciproque. Donc, et en plus, son amant est aussi marié. Donc à mon avis, c'est plutôt une relation qu'ils ont tous les deux justement parce qu'ils comptent des choses, des trucs qu'ils n'obtiennent pas de leur relation officielle chacun de leur côté.
En tout cas, c'est
un échappatoire.
En tout cas, l'amant de Lilou ne paraît pas aussi déterminé qu'elle. Si une décision devait se prendre. C'est ce que j'ai, moi, ressenti.
Pas. Oui, voilà. Oui, je vous rejoins là-dessus, absolument.
Très bien, Perrine. Bah, écoutez, merci pour votre appel. Ça serait bien qu'on puisse discuter une nouvelle fois de tout ça. Donc, on se permettra de vous rappeler parce que ça a été un peu court, hein, votre intervention ce soir. Et je pense qu'on aura des nouvelles de Lilou de toute façon, parce que j'ai senti qu'elle, qu'en nous appelant, elle cherchait aussi une solution, en tout cas d'avoir quelques conseils. Donc j'espère qu'elle nous rappellera, qu'elle nous donnera des nouvelles. Et puis, et puis vous, bien évidemment, ben, on vous rappellera pour aussi discuter un petit peu de, pourquoi pas, du Canada et quels sont les us et coutumes, et avoir votre avis sur, sur certaines choses. D'accord ?
Avec plaisir. Merci beaucoup,
Olivier. On vous embrasse, Périne. Au revoir.
Pareillement. Au revoir.